Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Messieurs, mesdames, bonjour et heureuse année 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour ces premiers numéros du magazine Identité culturelle de cette nouvelle année. Aujourd'hui, nous parlons des héros nationaux, un patrimoine pour nous. Leur existence constitue pour tout un peuple un engrais qui peut faire germer aujourd'hui des réalisations héroïques. Hommage à Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba qui sont honorés les 16 et les 17 janvier. Mais dans ces numéros d'identité culturelle, nous allons remonter des décennies avant eux pour parler d'anciens héros qui ont marqué notre histoire, pour voir comment nous inspirer de leur vie pour faire avancer les Congos aujourd'hui. Pour en parler, deux historiens, Emmanuel Rouzouzi et le professeur docteur en histoire, Justin Agouma. Je suis Rosalie Masikazawadi à la présentation de ces magazines. Bienvenue.
Radio Okapi.
Agouma.
Okapi.
Sur 95.5 FM.
Okapi.
Messieurs, mesdames, et bonjour. On ne pleure pas les héros, car les héros ne meurent jamais. Ils vivent dans les générations actuelles et continueront à vivre dans les générations futures. Notre premier invité, l'historien Emmanuel Rouzouzi, nous explique comment on devient un héros.
Pour devenir héros, c'est par rapport à son mode de vie, à son comportement, à sa manière de marquer sa société. Et donc, un héros, c'est lui qui a de valeur, qui incarne certaines responsabilités au sein de la société et qui incarne l'objectivité de ce qu'il faisait. Donc, être héros, non seulement c'est un titre qualificatif, mais aussi c'est une valeur, mais également c'est une interpellation pour les jeunes actuels. Et c'est comme ça que depuis que les sociétés ont existé, on a cherché comment primer, comment encourager ceux-là qui faisaient du bien. Et le terme héroïsme est apparu pour ce genre de personnes.
Comment perpétuer la mémoire des héros? Comment faire connaître leurs exploits dans la société?
Il y a eu des techniques qui ont été montées afin de faciliter les jeunes générations, bien sûr, et le futur, à connaître qui étaient ces héros. On pouvait construire des monuments pour eux. On pouvait aussi octroyer leurs noms à des milieux publics, à des écoles, des universités, des rues. Mais aussi, on pouvait même plaquer leurs images dans la monnaie. Et par après aussi, ce sont les journées fériées.
Est-ce que ce qui est fait aujourd'hui pour les héros en RDC, c'est suffisant?
Je crois qu'il y a beaucoup de choses à recadrer dans cette manière de célébrer les héros chez nous au Congo. Les héros, c'est une valeur, comme je le disais. Vous allez voir, par exemple, Lumumba. Non seulement qu'il était congolais, mais vous allez retrouver au Ghana, on célèbre Lumumba. Il y a d'ailleurs plusieurs coins qui portent son nom. Vous arrivez en Suisse, vous arrivez en Russie, il y a même des universités qui portaient son nom. Et pour dire qu'ils ont si comment tout ce qu'ils pouvaient attirer leur génération à voir les comportements qu'avait Lumumba pour défendre la nation. Mais ce qu'il faut fustiger chez nous au Congo, c'est le fait seulement de laisser les gens à la maison, soit en disant qu'on célèbre les héros Lumumba. Mais celui qui reste à la maison, il peut en avoir connaissance, mais superficielle. Comment est-ce qu'il faut capitaliser maintenant ces valeurs? C'est ce qui est le plus important. Vous les laissez à la maison, les commerçants se plaignent qu'ils n'ont pas maximisé ses recettes parce que Lumumba était mort. Mais plutôt, il faut voir comment encadrer autrement ces gens-là. Si on organisait des séances, des formations, des sensibilisations, des caravanes pour que les gens apprennent de ces héros-là, c'est qu'ils peuvent aussi utiliser ou capitaliser dans ce monde actuel, surtout dans notre Congo et la partie est qui est en guerre, comment est-ce qu'on peut défendre la nation? Parce que si on a ces héros ici, ils ont fait grand chose pour défendre l'intégrité territoriale. Et donc, être héros, c'est aussi un sacrifice. Mais il faut apprendre à ses enfants comment on peut se sacrifier pour la nation. Comment on peut devenir riche historiquement sans croire que pour devenir riche, il faut avoir des maisons, il faut avoir des bâtiments. Lumumba, c'est une richesse pour nous. Kabila que nous avons, c'est une richesse comme d'autres qui ont existé même avant ces gens-là dans les sociétés. Autre aussi qu'il faut recadrer, c'est le fait que les politiciens se sont donné le courage de proclamer sentimentalement certains héros. Et l'héroïsme, ça se mérite, ce n'est pas un sentimentalisme. Et l'héroïsme, ce n'est pas seulement sur le plan politique. Dans tous les domaines, on devait avoir des héros. Par exemple, sur le plan culturel, sur le plan footballistique, sur le plan... Donc, dans chaque domaine, on devait avoir des héros qui devaient servir de modèles pour ceux-là qui emboîtaient ces domaines-là. Nous allons voir que au Congo, avec les héros que nous avons, bien sûr qu'à partir de 2002, on a créé l'Ordre national des héros, Lumumba et Kabila, mais il faut savoir, c'est là que l'on prime en étant vivant. Qu'est-ce qu'il gagne de cet héroïsme? Et comment est-ce qu'on le fait connaître au monde actuel? Parce que s'ils sont là, on a vu les Gizenga qui étaient dans l'Ordre national des héros avec des médailles, mais les jeunes générations devaient comprendre concrètement pourquoi ils sont là et quel est le modèle qu'ils peuvent tricher chez eux.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Les héros peuvent être réels ou légendaires, mais leur histoire joue un rôle pédagogique dans la mémoire collective d'une communauté, poursuit l'historien Emmanuel Rouzouzi.
Il y a eu des contes, par exemple en Afrique, comme il n'y avait pas d'école bien structurée, il y avait l'initiation. Quand on prenait les jeunes, on les amène dans la brousse pour l'initiation. C'était pour leur apprendre toutes ces valeurs que les générations montantes devait suivre conformément à l'orientation des civilisations. Et surtout que, avec le phénomène des héros, on cherchait à minimiser les antivaleurs pour capitaliser les valeurs. Alors, délaisser les générations, délaisser les jeunes, c'était quelque chose qui était anormal. Chaque soir, par exemple, dans nos civilisations africaines, on devait avoir les groupes de vieux et les groupes de vieilles mamans qui encadrent les jeunes filles et de l'autre côté, les vieux qui encadrent les jeunes garçons. Autour du feu, on leur parle des mythes, des légendes qui nécessairement ne devaient pas avoir existé, mais on cherchait seulement à faire voir aux jeunes comment ils peuvent comprendre les vertus les plus importantes de la communauté.
Dans cette émission, nous parlons des héros, de ceux qui ont combattu pour que le pays soit ce qu'il est aujourd'hui, afin d'aider les jeunes d'aujourd'hui à comprendre qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Et nous parlons des hommes qui ont existé d'abord, on reviendra sur les mythes après. Il y a dans l'histoire un grand, Msiri.
Oui, Msiri, il s'appelait Ngelengwa, c'est un grand homme qui a connu la partie est du Congo, surtout la partie dont on appelait Katanga à l'époque. Msiri, de son vrai nom, il s'appelait Ngelengwa. C'est parmi les rares personnalités de l'RDC qui ont fait trembler l'homme blanc avant d'occuper la partie est. C'est un grand résistant, comme on va voir aussi du côté de l'ouest du Congo. On a les Simon Kimbangu, on a les Chimpavita, on a les Kitawala avec Mwana Lessa. Et donc, Msiri, il est là. Et son père s'appelait Kalasa. C'est un homme qui était venu de l'Unyamwezi vers la rive est du lac Tanganyika. Il traverse, il vient avec son peuple, les Bayeke, parce qu'ils étaient des chasseurs. Ils ont commencé à faire la chasse dans la forêt équatoriale du Katanga. Et puis par après, son père, Kalasa, qui était un fervent collaborateur avec les Arabes, lui, il amenait souvent les produits des Arabes à Msiri. À l'époque, il ne s'appelait pas encore Msiri, il s'appelait Ngelengwa. Ngelengwa aussi lui donnait les ivoires qu'on tirait des éléphants abattis et que le père maintenant ramenait auprès des Arabes pour qu'ils soient cheminés en Asie. Alors, le phénomène va persister là-bas. Il est collaborateur avec son père, avec le peuple chasseur. Mais par après, les rois de la région, Katanga, qui s'est dit non, comment expliquer que ces gens sont dans mon royaume? Parce qu'ils les supposaient comme étant des étrangers, mais par après, ils s'étaient aussi accaparés certaines mines de cuivre qu'ils exploitaient. Ils étaient des grands fondeurs de cuivre. Alors, le roi s'est dit non, non, il faut que je les rattrape. Mais quand il trouve Ngelengwa très gentil, il lui a donné même sa fille en mariage, mais par après, dans la cour, il y a eu un peu d'antipathie contre Msiri, Ngelengwa alors, et on a tenté comment l'abattre. Mais par après, les garçons, comme il était déjà informé que les gens de la cour royale ne voulaient plus de lui dans ses royaumes, Il a organisé des razzias contre la cour royale jusqu'à ce qu'il a tué même son beau-père et s'est proclamé le roi de la région. Et c'est pourquoi il a pris le nom de Msiri. Msiri, ça signifie Mushindi en Swahili, le victorieux. Et il devient le roi et il va diriger la région en homme responsable. Et quand la colonisation belge est arrivée, Msiri, il refuse toute collaboration avec les Belges. Et on a organisé des batailles, mais Msiri avait remporté toujours toutes ces batailles contre les Blancs. Et il faut préciser que la force publique était commandée surtout par les Blancs. On a eu des opérations comme celle de Delcomines, on a eu des opérations de Deschamps, on a eu beaucoup d'opérations, mais les jeunes Noirs, Msiri qui dirigeait le petit royaume de Garéganze, a pu refouler toutes ces batailles. Mais comment on a pu attraper maintenant et abattre Msiri? C'est à partir d'un rendez-vous qui était donné où on devait négocier le roi Msiri dans le village de Mounema. Et là, les Belges ont fait une commission qui est partie les rencontrer. Et malheureusement, en plein dialogue au niveau de Mounema, on a eu le capitaine Bonson qui était belge et qui a tiré sur le roi. Et quand il a tiré sur le roi, en plein débat, le roi est décédé et les gens qui étaient autour du roi ont fui. Sauf que le fils de Msiri était parvenu aussi à blesser Bonson. Et c'est comme ça maintenant qu'il y a eu des bandades dans la cour. Il n'y a plus eu quelqu'un qui était capable de pérenniser la force qu'avait Msiri. Et l'occupation du Katanga a été maintenant sous la domination des Belges.
Comment les jeunes aujourd'hui peuvent s'inspirer de l'exemple de cet homme, de ces héros?
C'est d'éviter les complexes. Un héros, c'est quelqu'un qui conduit la masse et la masse l'accepte comme tel et il est sûr de lui-même, de ses valeurs. Par exemple, Lumumba ne s'appelait pas Lumumba. Son vrai nom, c'est Joseph Okita Sumba. Mais on l'appelait Lumumba, le mot Lumumba signifie conducteur de troupes. Donc c'était une forme d'un qualificatif qu'on lui octroyait. Et donc les jeunes aussi doivent comprendre qu'on doit éviter les complexes et qu'à un certain moment, on a des aptitudes, on a des atouts pour défendre sa patrie. Il ne faut pas avoir peur. Celui-là n'a pas eu peur de la race blanche, il n'a pas eu peur de l'arsenal militaire qu'avait le blanc par rapport à sa manière de faire la guerre contre eux, mais il parvenait toujours à les refouler. Et nos jeunes maintenant doivent intérioriser ces valeurs. Ils doivent savoir que la nation attend beaucoup d'eux. Et que c'est à eux de défendre le pays. Nous n'avons pas de pays, de deux Congos pour nous. Si Dieu a voulu que nous soyons des Congolais, et donc nous avons ce devoir de défendre notre patrie. Et pour la défendre, c'est chacun avec ses aptitudes de le faire à son niveau.
Congo, Congo de Mboka, Mboka ngo mokengeli koi, Mboka ngo mokengeli Léopard. Mikolo to sekana kina mosolo ya mboka Congo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyo soto sali boya kobongisa Congo aveni ebongi to sala motonyo sota mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi Kina mosolo ya mboka Congo ekoki Tofungwani misolelo Tomoni bozo banyoso tosali Boya kobongisa Congo aveni ebongi tosala Moto nyoso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya nkasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi Congo, Congo de Mboka, Congo, Mboka ya Bankoko. Congo, boko mwana pamba, lobi, boko lula yango. Congo, Congo Africa, Congo, boka ya kitoko.
C'était la chanson Congo Avenir des Taboulés Rochero que nous dédions à tous ceux qui aiment les Congos. Après avoir écouté l'histoire du roi Msiri du royaume des Garéganzé de 1856 à 1891 au Katanga, nous recevons le professeur docteur en histoire Justin Agouma. Il nous présente aussi la vie d'autres héros qui ont beaucoup à nous apprendre.
Notre pays a besoin déjà capable de réfléchir et de comprendre que le passé nous aide à avoir des solutions sur le présent et l'avenir. Dans notre pays, nous avons eu Kimpavita Béatrice. D'abord, elle-même est née en Bazangungu, très jeune. Elle a tenté d'unifier le royaume Congo par le christianisme. Donc, elle a compris que, à cette période, les Belges nous ont amené une religion, et une religion qui nous a aliénés. Et elle a amené une idée du christianisme africain, où elle a commencé à dire que Jésus est noir, les anges sont noirs. Le prêtre l'ont taxé d'hérétique. Elle a été brûlée vive. Elle a laissé son enfant. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir d'elle comme modèle? Si Kimpavita Béatrice, à cet âge-là, a pris l'idée de se révolter contre l'Église catholique à cette période, qui était une puissance, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nos jeunes maman, jeune fille, peuvent aussi prendre conscience qu'elle aussi peut faire quelque chose pour le pays. Il peut faire l'armée, il peut faire la police, il peut faire autre chose pour défendre la nation. En se référant à Kimpavita Béatrice, qui à cette période-là, elle a résisté, il est possible actuellement que nous puissions avoir des jeunes congolaises qui peuvent également se ranger pour résister face aux forces négatives. Elles peuvent ressembler à Kimpavita Béatrice et amener des révolutions dans les pays et s'opposer à toutes les idées négatives qui peuvent détruire notre pays. Parce que dans la société actuellement, on pense que toujours que pour résister, il faut seulement les hommes. La réponse est non.
Il y a également un autre exemple des résistances, d'héroïsme, toujours en RDC.
Oui, il y en a eu beaucoup. Hein. Nous avons Mwana Lessa, nous avons Bushiri qui ont résisté avec la colonisation comme... Dans l'ancien temps, vous savez que moi j'ai dit toujours, si Mao Tse-Tung avait dit que la religion c'est l'opium du peuple, mais également les Blancs nous ont amené la religion pour nous aliéner. Parce que nous, chez nous en Afrique, on avait la croyance à nos ancêtres. Et cela marchait très bien. Je vais donner un exemple chez nous à Jomba. Mon grand-père était représenté comme un léopard. Et vers les années 70, quand je voyageais voir mon grand-père, je pouvais voir un léopard qui me gardait la nuit, et j'en étais fier. Et l'homme là est venu, il a demandé à mon grand-père de se confesser. Et désormais, on n'a plus vu notre léopard. Donc c'est un exemple que l'homme là nous a amené une religion pour nous détruire. Et ainsi, avec les Kitawala, qui est venu de la Rhodésie, qui est passé par les Katanga, qui a été amené par Mwana Lessa et dans l'Est avec Bushiri. Et ces gens, ils avaient l'idée de dire qu'ils sont venus libérer l'homme noir. Et que l'homme blanc puisse restituer les biens volés par les blancs. Donc, ils ont résisté sur la religion. Ils ont constaté que la religion, c'était quelque chose de détruire. Parce que les blancs voulaient détruire l'identité africaine. Et en détruisant l'identité africaine, on est perdu. Et voici maintenant, aujourd'hui, avec la religion, on est foutu. Donc, nous prenons l'exemple des modèles de Mwana Lessa et de Bushiri. Ils se sont opposés. Moi, je les considère des opposants à cette idée d'aliénation de l'identité que nous pouvons prendre actuellement. Nous ne devons pas accepter que les gens puissent détruire notre identité congolaise. Nos parents, nos jeunes, puissent comprendre qu'il y a dans l'ancienne période, dans l'époque coloniale, il y a déjà qui ont résisté. Et nous, aujourd'hui, nous devons résister et savoir que le Congo doit rester indivisible. et qu'on doit résister, même devant la mort, on doit résister. Nous sommes Congolais et nous resterons Congolais. Ce sont des choses que nous devons apprendre à nos enfants, apprendre à tout le monde.
Comme le disait le professeur Godefroy Kamana de Rez Mémoire, il faut partager les mythes forces, les parcours de nos héros pour nous construire et bien intérioriser l'image d'un Congo fort et victorieux. Pour l'historien Emmanuel Ruzuzi, Simon Kimbangu est l'un de nos patrimoines dans ce domaine.
Les gens, ils se lamentaient de voir la manière de faire de l'homme blanc qui est venu en Afrique au départ, soit en disant qu'il a amené la civilisation aux Africains, mais aussi il a amené le christianisme. Mais malheureusement, ce qu'il faisait, ça ne reflétait pas ce qu'il disait. Donc, à l'église, il dit quelque chose, mais par ailleurs, il pratique aussi autre chose. Il prend la Bible d'une main, l'arme dans l'autre, et de l'autre côté aussi, il vient faire le business avec les Africains. Et pour cela, comme il cherchait comment maximiser des recettes, c'est comme ça qu'il y a eu des déviations, des dérapages, même au niveau de la mission religieuse, même au niveau de la mission coloniale. Alors, les Noirs de l'époque cherchaient tous les moyens possibles et comment s'émanciper de cette colonisation. Et les gens maintenant qui commencent cette résistance, c'était surtout ceux-là qui s'inspiraient de la Bible. Et en s'inspirant de la Bible, nous voyons aussi Simon Kimbangu, qui est une incarnation de Tumpavita, qui est une incarnation de Kitawala, mais lui aussi qui voit le monde à l'envers des autres. Il utilise la Bible, mais lui, quand il parle de Jésus, il vous dit que Jésus était noir, comme le faisait aussi Tumpavita. Il dit que le vrai Dieu est noir. Il dit que tous les saints sont noirs. Et lui, il savait que le Congo serait un paradis si l'homme noir devenait blanc et si le blanc devenait l'homme noir. Si les noirs commençaient à vivre comme le blanc, directement, il y aura le paradis pour eux. Et si le blanc commençait aussi à traverser la souffrance que les noirs traversaient, ça serait aussi leur enfer. Et surtout que il s'est demandé, mais d'où est venu cet homme blanc qui nous fait voir qu'on ira au paradis, mais il est le premier à nous faire souffrir. Il nous fait rêver un paradis où il y a du miel, du lait, où il fait beau vivre, mais il ne nous l'éprouve pas ici. C'est comme ça maintenant qu'on a commencé à attaquer la Bible. Et Simon Kimbangu n'était pas un extraterrestre. C'est un garçon qui est né à Kamba, au Congo central, le 12 septembre 1887. Et il est né comme tout homme, comme nous. Il a sa mère, il était marié à Maman Mwilu. Ils ont eu ensemble 3 enfants, donc Isolokele, Diangenda, ainsi que Dialungana. Mais il comprend la conception de libérer sa nation. Il a été emprisonné en 1921. C'est parce qu'il traînait derrière lui toute une masse de gens qui venaient suivre les enseignements chez lui, et à qui il enseignait tout ce que nous venons de dire, et qui comprenaient vraiment que ce qu'il leur disait était vrai. Pour Simon Kimbangu, on ne devait pas accepter d'aller travailler dans les plantations des Blancs. Même que ce soit dans les plantations de l'Église. Surtout qu'à l'époque, vous avez besoin des sacrements, on devait vous demander d'aller travailler dans la plantation de la paroisse. Et par après, on vous donne les sacrements. Mais curieusement, la récolte, vous n'en bénéficierez même pas. Et là, on vous dit, pour aller au ciel, il faut accepter la souffrance. Il faut accepter d'être pauvre parce qu'il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Comme c'est difficile à l'âne de passer dans les trous d'une aiguille, on monte des scénarios autour de la pauvreté pour que l'homme noir puisse accepter la pauvreté, puisse aimer la pauvreté alors que c'est l'homme blanc qui s'enrichit. Mais ce n'est pas seulement ces gens-là. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs résistances, même la résistance de Bakoum, la résistance de Batete, là. Il y a eu la résistance chez les Légas aussi. Et donc tous les peuples étaient presque aux aguets parce qu'ils ne voulaient pas l'occupation extérieure de son territoire. En Afrique, la terre, c'est l'identité d'un peuple. La terre est sacrée.
Les autorités, les adultes actuels et les jeunes, chacun à son niveau, devraient revisiter la vie de nos héros et puiser ce qu'il lui faut pour bâtir un Congo fort. C'est ce qu'ont dit nos deux invités.
Moi, je vais seulement demander aux autorités du pays de prendre conscience. Ça ne suffit pas de dire dans la bouche que nous devons aimer le pays. Donc, les autorités doivent d'abord manifester l'amour du pays. À partir de la tête, ils doivent prendre conscience. Ils doivent avoir un modèle. Des héros, par exemple. Les autorités ont choisi quel modèle? Parce que la jeunesse va s'inspirer de ces autorités-là. Ce n'est pas dans la bouche que le pays a besoin de jeunes. C'est en pratique dans la vie courante pour que les jeunes prennent conscience. on doit d'abord donner la valeur aux anciens. Parce que les jeunes se réfèrent aux vieux. Quel est le modèle de nos vieux? La corruption, détournement. On doit maintenant vérifier dans le passé quel est le modèle à donner aux jeunes. On forme nos jeunes par rapport au modèle. Et quel est le modèle de notre pays? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le modèle de Lumumba? Je ne sais pas. Nous voulons le modèle de Laurent Désiré Kabila? Je ne sais pas. Donc c'est le pays à la tête qui doit tracer la ligne de conduite à suivre.
Donc il y a un problème parce que les montages idéologiques échappent pour orienter les générations actuelles. Il faut qu'il y ait ce patriotisme qui passe par des idéologies nationalistes. C'est là où vous allez voir, par exemple, actuellement, les jeunes ont peur de mourir parce qu'ils pensent que être dans l'armée est égal à la mort. Mais qui a dit que appartenir à l'armée, c'est directement la mort? On peut mourir par accident, on peut mourir par maladie, on peut mourir par d'autres causes. Mais qui va leur apprendre que la nation, c'est une valeur qu'ils doivent intérioriser à travers certaines idéologies? Comme venait de le dire le professeur, vous trouvez nos militaires, quand ils vont au front, quel message on leur donne d'encouragement? Quel réconfort idéologique on leur donne? Alors, cette idéologie, on doit la matérialiser. Curieusement, nous comme historiens aussi, c'est qu'on se reproche. On n'a pas d'espace pour parler à ce genre-là. Vous imaginez actuellement les cours d'histoire est en train d'être supprimés à l'école secondaire. Et même quelquefois, le programme national n'insère pas certaines notions très concrètes par rapport à ce nationalisme. Il y a aussi d'autres programmes enseignés dans les écoles conventionnées auxquels les confrères historiens sont appelés à conformer à la convention de ces écoles conventionnées où vous êtes limité pour ne pas dire toute la vérité. Et donc l'État congolais aussi pouvait récupérer ses responsabilités à travers même les écoles pour que les gens aussi trouvent des espaces, des forums, trouvent aussi des lieux où ils peuvent parler directement à la population. L'autre problème pour les jeunes, c'est le matérialisme. On a plus envie de s'enrichir très vite, au point où on a peur aussi de perdre ses biens, et on ignore les autres choses. Les gens ont compris que être riche, c'est avoir des maisons, des parcelles, des biens, en oubliant aussi les valeurs morales. Pourtant, les valeurs morales, c'est aussi une richesse, comme je le disais. Alors les gens, en s'intéressant à ces inutilités, ils oublient ces autres valeurs que l'on doit prôner et à travers lesquelles on peut parler de vous-même des siècles comme nous le faisons aujourd'hui. Il y a aussi le problème de gains faciles. Les gens ont tendance de chercher comment ils peuvent gagner facilement. Par exemple, je peux être là, mais j'ai envie d'avoir ma voiture, ceci. Mais je ne pense pas comment je vais bosser pour en avoir. Et donc, quelqu'un de l'extérieur, si je viens, me dit, non, voici, je te donne telle opération contre ta nation. Et je te donne ceci. Les jeunes sont prêts à céder et sacrifier la nation en général. L'autre grand problème maintenant, c'est l'unité congolaise. Vous allez voir qu'il y a sous forme d'une division qui s'est installée au sein de la classe congolaise ou la partie ouest, je crois qu'elle n'est pas concernée par ce qui se passe à l'Est. À Kinshasa, on va vous dire que c'est une affaire pour les gens de l'Est s'il y a agression. Et nous aussi, quand nous allons à Kinshasa, nous disons non, ce sont les gens qui aiment seulement les loisirs, ils sont là, ils ne travaillent pas. Alors, l'esprit héroïque s'installe au sein de la population quand il y a aussi cette unité. Les héros se trouvent forts quand tu le sais qu'il est accompagné. Et la grande force pour un pays, c'est sa population. Et comme l'avait dit Lumumba dans sa lettre qu'il avait écrite à son épouse Pauline, il avait dit que les générations futures devraient faire tous les moyens possibles pour écrire une histoire glorieuse. Et cela au sacrifice de leur peine. Tous les peuples congolais, nous sommes appelés à faire chacun à ce qui les concerne pour que l'histoire de la RDC soit glorieuse et que nous puissions nous faire entre nous des héros pour recouvrir l'intégrité nationale.
C'est la fin de ce numéro du magazine Identité culturelle sur Radio Okapi. Nous avons parlé de l'héritage de nos héros pour la construction d'un Congo fort aujourd'hui. Merci à nos invités, les professeurs docteurs en histoire Justin Agouma, coordonnateur de l'école doctorale de l'Université de Douala à Goma, et l'historien Emmanuel Rouzouzi. Ce magazine a été produit sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Rosalie Masikazawadi. Je vous remercie de nous avoir suivis. Encore une fois, recevez nos vœux les meilleurs. meilleur pour cette nouvelle année. Vous pouvez réécouter ces magazines sur notre site, les www.radiookapi.net. Portez-vous bien.